Chers amis, je ne vous parlerai plus comme je vous l'ai fait samedi dernier. Je voudrais tout de même demeurer dans l'esprit de la retraite et par conséquent vous donner quelques conseils spirituels, vous aider à vous donner totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il me semble qu'il y a une résolution à prendre, une orientation de notre vie à accepter, à donner. C'est pour nous donner tout entier à notre Seigneur, d'abord de nous posséder nous-mêmes. Si nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, il faut l'avoir, cette chose. Il faut la posséder. Nous ne pouvons pas donner si nous n'avons pas. Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous donner complètement à notre Seigneur? Parce que nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Si nous faisons l'examen de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous faisons, nous serons bien obligés de reconnaître qu'il y a en nous bien des secteurs, si je puis dire, des forces vives en nous qui ne sont pas encore soumises à notre volonté, soumises à notre vertu. Il faut, je pense aussi, dans la méthode de Saint Ignace, de faire la conquête de soi. Faire la conquête de soi. Pourquoi cette conquête de soi? Pourquoi ne sommes-nous pas, malheureusement, totalement à nous-mêmes? Parce que même après la grâce du baptême, vous le savez, il reste en nous des tendances mauvaises, des blessures qui affectent toutes nos facultés, qui affectent toutes nos forces, toute notre tendance à aller vers Dieu, qui nous affecte de telle manière que bien souvent, nous faisons des actes, nous avons des pensées, nous avons des activités qui ne sont pas conformes à la volonté du bon Dieu, que nous ne pouvons pas donner à Dieu, que nous ne donnons pas à Dieu parce que elles sont sous l'influence encore de celui qui était en nous avant le baptême, avant la grâce du baptême. Être maître de soi, se posséder soi-même, c'est une qualité, c'est une nécessité, avec la grâce de Dieu, bien sûr, nous ne pouvons pas y arriver sans la grâce de Dieu, mais c'est une chose à laquelle nous devons tendre et que nous devons chercher, nous devons nous examiner pour savoir en quelles circonstances encore, dans quel secteur de notre activité, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Et nous pouvons le remarquer, évidemment, que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes lorsque nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que, malheureusement, ce ne soit pas toujours sans notre volonté, sans notre accord. Mais on peut dire que ce n'est pas vraiment, notre bonne volonté, c'est-à-dire notre volonté soumise à Dieu, qui dans ce cas commande, mais notre volonté soumise à une autre influence, à l'influence du démon. Il faut donc rechercher la possession de soi, rechercher la maîtrise de soi. Enfin, c'est là une chose à laquelle nous devons tendre, et une des choses qui, même dans notre apostolat, voyez-vous, dans notre apostolat, dans les relations avec les autres, a une très grande importance. Et on se possède lorsque l'on est capable de soumettre entièrement son activité, sa vie, ses journées, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, toutes nos pensées à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans ce but-là que nous devons vivre et que nous devons rechercher cette maîtrise de nous-mêmes. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour nous donner totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous ne sommes pas totalement à notre Seigneur Jésus-Christ lorsque certains secteurs de notre activité, certains secteurs de notre personnalité, ne sont pas en notre propre possession. Et ils ne sont pas en notre propre possession parce que nous ne faisons pas suffisamment d'efforts pour, et nous ne sommes pas suffisamment généreux pour maîtriser nous-mêmes et nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, il faut le rechercher dans tous les plus petits exemples de notre vie. Vous savez, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Il ne faut pas rechercher cela dans les choses extraordinaires. Il faut voir ça dans les plus petits détails de notre vie. C'est à des détails de notre vie que nous verrons que nous ne sommes pas encore maîtres de nous-mêmes et que nous ne mettons pas encore toute notre activité sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en définitive, nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. In propria venit, et sui eum non receperont. In propria, il est notre propriétaire. Nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes, nous ne sommes que des locataires. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous ne sommes pas des propriétaires. Alors, nous n'avons pas le droit d'user de nous-mêmes comme nous voulons. Non pas, impropria. Il a voulu venir chez les siens, chez ceux qui lui appartenaient. Il a voulu venir chez lui, et on ne l'a pas reçu chez lui. Chez lui-même. Notre Seigneur est chez lui lorsqu'il est chez nous. Plus que nous, nous sommes chez nous. Car c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous soutient dans l'existence. Donc nous lui appartenons totalement et à tout instant de notre vie. Il n'y a pas un seul instant que nous puissions posséder, que nous puissions vivre sans que Dieu le permette, sans que notre Seigneur le permette. Alors, l'état normal d'une créature, c'est d'être entièrement dans les mains de notre Seigneur. Pour les créatures matérielles, il n'y a pas de problème, elles sont toujours dans les mains de notre Seigneur, puisqu'elles n'ont pas de volonté, elles n'ont pas d'intelligence, elles ne peuvent pas s'opposer à notre Seigneur. Hélas, nous, parce que nous avons une intelligence et une volonté, alors que cette intelligence et cette volonté nous sont données précisément pour que nous nous donnions à notre Seigneur volontairement et librement et avec mérite, eh bien, nous nous servons des moyens que le bon Dieu nous a donnés pour nous rendre à lui, en quelque sorte, pour nous donner totalement à lui. Nous nous en servons pour nous détacher de lui, pour nous séparer de lui, pour lui prendre ce qui lui appartient. Pour lui prendre ce qui lui appartient, c'est inimaginable. Inimaginable. Nous sommes là dans une situation absolument anormale, absolument anormale. Voilà. nous croyons être quelque chose, c'est encore, je répète, la parole de saint Paul qui est d'hier, n'est-ce pas, qui était dans l'épître d'hier, nous croyons être quelque chose, si nous croyons être quelque chose, comme nous ne sommes rien, n'est-ce pas, nous sommes dans l'illusion. Cum nihil sit, ipse se seducit. Comme il n'est rien, il se fait complètement illusion. Et nous vivons dans l'illusion. Nous vivons continuellement dans l'illusion. C'est une chose terrible, ça, de penser qu'on peut passer presque toute sa vie, quelquefois toute sa vie, hélas pour beaucoup, toute sa vie dans une complète illusion. Complète illusion. Dans une manière de penser qui n'est pas conforme du tout à la réalité, mais complètement en dehors de la réalité. Les gens se servent d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de leurs facultés intellectuelles, de leur volonté, de leur corps, de leur bien, de tout ce qu'ils ont, comme si ça n'appartenait qu'à eux, comme si c'était à eux, comme si c'était eux-mêmes qui s'étaient faits, comme si c'était eux-mêmes qui se donnaient l'existence, comme si c'était eux-mêmes qui étaient les maîtres de leur destinée. C'est complètement dans l'illusion totale. C'est inimaginable de penser que des millions d'hommes, des millions, peut-être des milliards d'hommes vivent comme ça, sans référence à Dieu. Alors que tout est dans les mains de Dieu. Si Dieu voulait, si notre Seigneur faisait seulement, avait seulement la pensée que celui-là, je l'abandonne, nous repartirions dans le néant. C'est fini. N'existerions plus. Immédiatement, à l'instant même, nous disparaîtrions, nous ne serions plus de ce monde. Alors nous,
bonjour, dans... Monsieur le chanoine Berthaud au téléphone. Monsieur le chanoine Berthaud.
Nous, dans une certaine mesure aussi, dans la mesure où nous disposons de nous sans référence à notre Seigneur, nous vivons dans l'illusion. Ou si nous croyons vraiment être quelque chose par nous-mêmes, si nous étions quelque chose par nous-mêmes, serions Dieu. Serions Dieu. Parce que si nous nous donnions ne serait-ce qu'une petite partie de notre existence que nous avons, ben nous nous la donnerions toujours, et nous l'aurions toujours eue, et donc nous serions des dieux. Dans le fait même que nous ne pouvons pas nous donner cette existence, que cette existence ne vient pas de nous, elle est supportée par quelqu'un d'autre, par notre Seigneur, par Dieu. Alors il nous faut nous reconquérir en quelque sorte, parce que c'est par le péché originel, on a pris possession de quelque chose qui ne nous appartient pas, eh bien il faut nous déposséder, je dirais, nous déposséder et nous reconquérir pour nous donner à notre Seigneur, pour nous donner complètement à notre Seigneur. Et pour ça, vous savez, il faut une générosité de tous les jours. C'est pas seulement une fois, c'est pas seulement deux fois. Il faut recommencer tous les jours. À se demander dans quel secteur suis-je, je me prends pour mon maître. Comme si je m'appartenais à moi-même, comme si j'étais le maître de moi-même. Il y a toute, à ce point de vue-là, nos prières sont très significatives, et particulièrement les prières de prime. À ce point de vue-là, l'heure de prime est une heure admirable, admirable, parce qu'elle nous remet totalement, justement, dans les mains de notre Seigneur. Chaque matin, on recommence, on redit les mêmes choses, mais nous nous remettons totalement. Nous supplions notre Seigneur de nous aider à être totalement sous sa mouvance, totalement sous sa dépendance. Mais pour ça, il faut encore une fois nous posséder. Si nous nous possédons, nous ne pouvons pas nous donner à Dieu, nous ne pouvons pas nous donner à notre Seigneur. Dans l'hymne est admirable, cet hymne de prime. Nous demandons à Dieu, nous le supplions, de faire en sorte que tous les actes de notre journée soient protégés de tout ce qui peut leur nuire. Et l'Église met sur nos lèvres enfin, des détails, n'est-ce pas, que notre langue notre langue soit toujours soit réfrénée dans ce qu'elle pourrait dire qui ne serait pas conforme enfin, à la volonté de Dieu. De telle manière qu'il n'y ait pas de litige. Ne litis horror in sonet. Pour que l'horreur d'un litige, d'une division, d'une opposition violente entre des confrères, entre nous ne s'élève. Et la langue en est souvent le moyen, n'est-ce pas? Dans une conversation, facilement, on s'énerve. Et on ne se possède plus, voilà, on dit, on ne se possède plus, et on dit des choses qu'on regrettera peut-être après, mais qu'on dit quand même, et qui provoquent alors cette opposition entre les âmes, entre les cœurs, dans les cœurs, qui divise, n'est-ce pas? Que notre vue soit voilé en quelque sorte, de telle sorte que nous ne soyons pas attachés aux vanités de ce monde. Parce que les vanités nous détournent de notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur, la gloire, l'argent, les biens, tout est bien, toutes ces vanités de ce monde, la bonne réputation, et que sais-je, peuvent nous détourner de notre Seigneur. Sin pour accorder sintima, que nos cœurs soient purs, dans l'intime d'eux-mêmes, que nos cœurs soient purs, qu'il n'y ait pas dans nos cœurs de vecordia, de haine ou de mauvais sentiments dans nos cœurs vis-à-vis de notre prochain. Carnisterat superbiam, que la chair, l'orgueil de la chair soit réprimé, diminué, et notre pauvre chair, c'est encore dans notre pauvre chair combien de péchés, combien de monde va en enfer pour ce péché de la chair, cet abandon de toute discipline, de toute mortification, de toute pénitence. Potushibike parchitas, et que nous soyons modérés dans le boire et le manger. Et dire que l'Église nous met ça sur les lèvres tous les matins, dans l'heure de prime. Parce que l'Église est une mère qui nous connaît bien, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui sait très bien que nous manquons dans ces choses, et que c'est tous ces manquements-là font que nous ne sommes pas soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'est pas notre roi. Et tout cela parce que nous nous laissons entraîner par quantité de faiblesses, de mauvaises tendances. De telle manière que lorsque le jour finira et que la nuit reviendra, nous puissions chanter la gloire de Dieu, parce que nous nous serons abstenus du monde. Comme c'est beau ce souhait que nous faisons dès le matin, que nous ayons abstinentiam mundi, nous abstenir des choses de ce monde, du monde dont le prince est Satan, que nous nous abstenions de toutes ces choses. Pour cela, nous devons faire un effort, savez-vous, nous devons constamment nous surveiller, constamment. Vous voyez, il faut surveiller notre égoïsme, par exemple. Notre éducation moderne, mes chers amis, notre éducation moderne est lamentable, 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 lamentable. Et même parmi ceux qui ont eu cette générosité, qui viennent avec grande générosité dans les noviciats, dans les séminaires, dans les congrégations religieuses, il y en a qui vivent au milieu de leurs confrères ou de leurs sœurs religieuses comme s'ils étaient seuls, comme s'il n'y avait personne autour d'eux. On mange à table comme si on n'avait pas de convives. On vit dans toutes ces relations comme si on n'avait personne autour de soi et comme si bientôt tous les autres devaient être à notre service. mais qui ne pensent pas, qui n'ont pas l'idée de penser qu'il y a quelqu'un à côté d'eux, auquel ils puissent s'intéresser, voir, s'occuper, voir s'ils ont ce qu'il faut, être à la disposition des autres. Ils n'y pensent pas. Ça dépasse leur imagination. Ils n'y pensent pas. C'est terrible, cet égoïsme qui a été cultivé dans l'enfance parce que les parents se sont mis trop au service de leurs enfants et pas assez, non pas assez, habitué leurs enfants au sacrifice, à penser à leurs frères et sœurs, à penser à leurs parents, à penser aux autres. On les a flattés, on a flatté les enfants, on a été à leur service. On leur a demandé ce qu'ils désiraient, et l'enfant désirait manger, on lui a donné à manger, il désirait boire, on lui a donné à boire, il désirait sortir, on l'a fait sortir, il désirait ceci, on lui donnait, et tout le temps à son service. C'est lamentable comme éducation, absolument lamentable. Alors jamais l'idée de dire à un enfant, fais un sacrifice, voyons, sache tout de même te priver de quelque chose. Ah non, 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 dès que l'enfant demande, tout de suite, qu'est-ce qu'il veut, on lui donne. Affreux, affreux. Alors, les enfants qui ont été éduqués comme ça ont beaucoup de peine à penser qu'il y a des gens autour d'eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas l'idée de s'occuper de leurs voisins, de quelqu'un qui pourrait être malade, à essayer de penser à lui, aller le voir, demander s'il a besoin de quelque chose. À table, la même chose, savoir s'occuper, voir si quelqu'un manque de quelque chose. Enfin, penser aux autres avant de penser à soi. Et c'est ce qui fait que la difficulté du sacrifice est très grande pour beaucoup de jeunes maintenant, beaucoup parce qu'on ne les a pas du tout éduqués au sacrifice et à la privation. Oui, il faut le dire, même ici, on a, au cours des vacances, lorsqu'on fait la propreté dans vos chambres, eh bien, on a rencontré beaucoup de... dans bien des chambres, du manger, des bouteilles, des choses, et qui n'étaient pas des bouteilles d'eau, eh bien, c'est tout de même pas tout à fait normal. Même pas tout à fait normal, parce que vous voulez, on ne doit pas avoir de nourriture dans sa chambre, on ne doit pas avoir de liquide qui n'est pas, soit que de l'eau, si vous voulez, mais pas autre chose que de l'eau, mais pas tout de même à avoir des bouteilles de vin, des bouteilles d'apéritif, des bouteilles de... Inadmissible. Ça pourquoi? Pas sans doute par mauvaise intention. L'habitude de j'ai envie, je prends. J'ai envie, je le fais. Ça me dit d'avoir ça, je le prends. Sans penser un instant, mais enfin, est-ce que je pourrais pas me passer de ces choses-là? Il faut tout de même que je m'habitue à avoir une certaine discipline de moi-même, une certaine maîtrise de moi-même. Ah non, j'ai envie. J'ai envie, comme les enfants demandaient à leurs parents, j'ai envie de ça, j'ai envie. On lui donnait, évidemment. Il a dit, mais bien sûr, on va lui donner. Mais non. Alors, on continue sur cette lancée-là, mais on ne pense à rien. Pas la moindre idée de faire un effort, un sacrifice, se détacher, même si c'est une chose qui serait permise éventuellement. Enfin, il faut quand même, surtout, je dirais, quand on est dans les années de formation, s'habituer à se maîtriser, parce qu'après, si on ne le fait pas au cours des séminaires, vous ne le ferez jamais. C'est pas possible, vous ne le ferez jamais. Négligence aussi quelquefois pour une espèce de paresse native, enfin, ou le fait, la régularité, je dirais, l'exactitude, hein, qui ont beaucoup de peine à être exact, beaucoup de peine à se lever à l'heure, immédiatement, la sonne cloche, hop, on saute du lit comme un ressort, c'est absolument, oui, au moment même. Il faut avoir cette énergie, il faut s'habituer à cela. Même si votre montre s'est trompée en sonnant, je ne sais pas, ou votre réveil s'est trompé en sonnant une heure plus tôt, il faut être hors du lit Puis constatez après que vous avez qu'il y a une heure de... encore, que vous pouvez profiter d'une heure. Mais pour se dire, j'ai l'impression que je devrais encore rester dans le lit. Et puis on y reste. Non, il faut prendre des habitudes énergiques, n'est-ce pas, savoir maîtriser cette nature qui est toujours, qui a toujours des tendances à faire ce qui lui plaît et non pas ce qu'elle doit, n'est-ce pas. Combien de choses, ce genre-là, des petits détails, n'est-ce pas, mais c'est à ces détails qu'on peut mesurer, je dirais, la possession et la maîtrise que l'on a de soi pour se donner au bon Dieu. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour le plaisir d'être un ascète, pour le plaisir d'être un spartiate, et dire moi, je fais ça, moi, je suis capable de faire ceci, moi, je suis capable de faire cela. Il s'agit pas de ça, c'est pas une espèce d'exercice comme peuvent faire ceux qui sont soumis à des exercices qui peuvent donner au contraire plutôt une espèce d'orgueil et de vanité que de donner une véritable soumission au bon Dieu, soumission à notre Seigneur. Il ne s'agit pas d'une pure éducation comme on éduquerait un animal, c'est pas ça. Mais il faut se procéder dans le but d'être totalement à notre Seigneur. Que le jour où notre Seigneur nous demande quelque chose qui nous déplaît, qui ne nous va pas, eh bien que nous immédiatement, je dirais, habitués à être soumis à lui, nous disions oui. C'est tout, oui, évidemment. Il faut aussi dans les conversations, par exemple, prendre garde. C'est souvent de conversations et de discussions un peu vives que viennent les malaises entre les confrères. On a beau le regretter après, une fois qu'un mot déplaisant et blessant a été dit à un de ses confrères, la blessure est faite et il faudra peut-être quelque temps pour qu'elle soit réparée. Et cela parce qu'on n'a pas su se contenir. Une discussion qui va toujours, le ton s'élève toujours un peu plus, jusqu'au moment où on s'insulte. On ne se possède plus et on crée une rupture qui ensuite est pénible. Il y a ceux qui ne devraient pas garder rancune, il ne faut pas garder rancune. Ça n'est pas non plus charitable, mais enfin, il ne faut pas non plus provoquer les difficultés et les manques de charité. Même si on a raison. Le jour où vous aurez à prêcher l'Évangile, le jour où vous aurez à guider les fidèles, alors vous pourrez affirmer un peu votre autorité, parce que vous aurez une charge de guide, une charge d'autorité vis-à-vis de ceux que vous devez conduire dans le droit chemin. Mais ici, entre vous, vous n'avez pas de charge de vous conduire les uns les autres, ou de vous obliger les uns les autres à penser comme ceci, à penser comme cela, sur tel point. Alors, bon, vous n'avez pas à imposer aux autres vos manières de voir. Et il faut donc être charitable, savoir écouter. Et en général, il y a toujours même une parcelle de vérité, même dans ceux qui peuvent se tromper. Il y a toujours quelque chose, au moins une apparence de vérité, puisqu'ils s'y attachent en général. On ne s'attache pas à l'erreur pour l'erreur, on s'attache parce qu'elle a une apparence de vérité. Alors il y a peut-être à faire des distinctions. Et ne pas s'opposer brutalement et en bloc à une chose qui est une affirmation qui est faite et qui peut-être en la distinguant, en montrant ce qu'il peut y avoir de vrai et de faux, peut permettre de continuer une conversation dans la charité et dans la fraternité. Mais ce sont des petits détails, des petites choses, mais qui sont importantes. Dans vos charges, par exemple, aussi, il peut se faire qu'il y en ait qui n'arrivent pas à accomplir leurs charges pour une raison ou une autre, ou qui doivent être, qui peut, s'il faut qu'ils se fassent aider mutuellement, eh bien, faites-le généreusement, faites-le volontiers si vous vous en apercevez. Mais là encore, bien souvent, il faut avoir les yeux ouverts pour ça, et les yeux charitables, et des yeux généreux. Parce que si on ne veut pas avoir que quand un confrère est un peu dans la gêne ou dans la difficulté pour une raison ou une autre, si on ne veut pas avoir, on ferme les yeux, évidemment, c'est pas difficile de passer à côté de quelqu'un qui est gêné et qu'on pourrait aider, mais on n'a pas envie de l'aider, alors on passe, n'est-ce pas? Un peu comme même le prêtre avec le samaritain, n'est-ce pas? On ne regarde pas, évidemment. La même chose, jusqu'à présent, je pense que je ne veux pas vous dire que vous n'avez que des défauts, bien loin de là. Mais enfin, quand on vous a demandé des volontaires pour ceci ou cela, enfin, vous l'avez toujours fait généreusement. Mais il faut continuer à le faire généreusement. Il faut pas que vous fatiguiez, vous disiez, oh, moi, que les autres y aillent, moi, j'ai pas le temps. Il faut faire généreusement. Précisément, c'est, je dirais que c'est une marque de bonne volonté, de bonne entente entre vous, de charité, d'aide fraternelle, n'est-ce pas, qui doit créer un climat dans le séminaire, un climat chez vous de générosité, de grande générosité. Et les âmes généreuses sont récompensées par le bon Dieu. Les âmes généreuses. Alors je souhaite que, au cours de cette année, vous ayez vraiment, enfin, que le séminaire, d'année en année, je dirais, soit toujours plus paisible, plus charitable, plus une maison dans laquelle la paix règne, la paix intérieure dans vos cœurs, et puis en même temps, la bonne entente, enfin, entre vous. Sous l'influence de notre Seigneur, parce que vous voulez vous donner tout entier à notre Seigneur. Il y a tant de raisons pour vous d'être unis, tant de raisons d'être charitables les uns pour les autres, et particulièrement en ce temps de persécution, en ce temps de difficulté, vous vous trouvez vous-même tous dans les mêmes sentiments, ce même désir de voir l'Église renaître, de voir l'Église se rénover, de voir l'Église retrouver vraiment son vrai visage. Eh bien, c'est là un sentiment qui doit vous unir. Et puis, comme je le disais hier, vous êtes tous unis dans la même foi en notre Seigneur Jésus-Christ, dans la même communion, quand vous pensez que vous recevez notre Seigneur tous dans vos âmes, le matin, vous avez beaucoup plus de choses qui vous unissent que de choses qui vous rendent divers. Sans doute, il y a des nationalités différentes, des conditions différentes, une éducation un peu différente, des qualités différentes, diverses, mais tout ça doit être complémentaire. Le bon Dieu n'a pas voulu que nous soyons égaux. Il aurait pu faire que nous soyons égaux. Alors il n'y aurait pas eu de société pratiquement, parce que la société est précisément un échange continuel entre l'autorité, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, on se transmet, c'est un échange continuel. Si nous étions tous exactement égaux, en savoir, en taille, en force, nous n'aurions plus rien à faire les uns pour les autres, nous n'aurions plus rien à nous transmettre les uns aux autres. Et comme ça, au contraire, par le fait que nous sommes différents, par le fait que l'un a une qualité, l'autre ne l'a pas, on a tous, plus ou moins, on a tous à faire ces échanges qui sont justement une occasion de pratiquer la charité. Et en même temps, l'humilité. L'humilité de se rendre compte qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, comme dit La Fontaine. Maintenant, je souhaite donc, vous fassiez des efforts. Il faut toujours remettre, vous savez, l'ouvrage sur le chantier, il faut toujours, sur le métier, il faut toujours remettre, revoir, s'examiner soi-même pour voir si on ne peut pas mieux faire, si on ne peut pas être plus généreux, être plus sacrifié, être plus mortifié. Non pas que vous ayez évidemment des mortifications à faire et qui dépassent et qui ruineraient votre santé. Il n'est pas question de ça. Là. Vous ne devez pas faire de mortifications extraordinaires sans avoir des permissions spéciales de votre directeur de conscience. Mais enfin, une mortification ordinaire, une petite privation de ces envies qu'on peut tous avoir, de ne pas être tout à fait conforme au règlement, à la manière de se conduire, et puis, manquer un peu au règlement, ou à la vertu, eh bien que vous fassiez un effort pour vous mettre dans cet esprit du psaume 118 que vous lisez qu'on lit en partie, du moins qui sont dans les petites heures du dimanche. C'est-à-dire ce magnifique psaume 118 qui n'est toute la préoccupation de ce psaume du psalmiste, c'est d'être pleinement soumis à la volonté du bon Dieu, à être pleinement soumis au commandement de Dieu. C'est admirable, ce psaume. En le méditant, on a ce souci, on acquiert ce souci de se soumettre entièrement à la volonté du bon Dieu. Car c'est la loi de Dieu qui doit être notre loi, qui doit être la loi de notre vie. La loi de charité, et c'est cela la volonté de Dieu, et c'est cela qui fait notre perfection. Demandez-le à la très sainte Vierge Marie, de façon à ce que vous commenciez bien votre année par cette bonne retraite, et qu'ensuite vous puissiez profiter de cette retraite pour marcher toujours plus allègrement dans les voies de la perfection.